Si Julien, Nathalie, vous êtes d'accord, on pourrait déjà faire une transition vers les échanges avec la salle, notre mosaïque Zoom. Si quelqu'un a de questions à poser à nos intervenantes et nos intervenants, parce que justement, il y a un aspect sous la médiation qui est intéressant aussi, qui a été soulevé par Gabriel, hein, qui nous a parlé de la médiation proprement parlée. Mais moi, de ce que j'ai pu suivre avec ces propositions, je reconnais une action de médiation, une forme de médiation, une pratique de médiation dans toutes ces expressions. C'est la médiation dans la télé-théâtre menée par Anthony Dubois auprès du public, hein, des adultes, hein, les groupes de femmes. C'est la médiation qui allie technologie et fiction narrative dans la forme alternative, hein, par l'audiodescription dans le travail de Koskuna. C'est la médiation numérique du collectif Protocole dans la mesure où on décide une véritable opération d'éditorialisation de l'œuvre, hein, dans les sites pour communiquer qu'est-ce que c'est cette épopée de traversée d'errance en 6 mois dans la France. Quelle est la place, justement, c'est un peu la question que je voulais vous poser. Et quelle est la place de la médiation? Est-ce que la médiation serait finalement une forme elle-même alternative de spectacle? Et comment ça change la perspective par rapport à cette forme de spectacle, si la médiation devient aussi, outre une pratique, aussi une forme de spectacle à la fin, avant, pendant et après la crise, selon votre point de vue.
Si moi je peux peut-être poser plus de questions, c'est par rapport justement, est-ce que avant il y avait cette espèce d'intuition d'intégrer déjà à la base de la création une sorte de médiation avec les publics, ou maintenant justement à cause de la distance, ça s'est comme imposé comme choix artistique d'intégrer cette médiation et d'en faire vraiment une part entière de la création?
Si je peux me permettre, je dirais que dans le travail d'animateur de cours de théâtre, hein, on est dans le cadre de l'animation plus que dans le cadre du professorat, dans le cadre de l'animation d'un cours de théâtre ou d'un autre atelier, hein, ça peut être de la musique, du dessin et tout, il y a toujours effectivement cette idée de médiation. Je pense aussi qu'en tant qu'animateur, on joue aussi un rôle. On n'est pas forcément. Moi, je sais que je me suis toujours. J'ai toujours tenté d'être très positif, d'être oui, le plus positif possible avec mes élèves, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans ma vie privée. Et c'est vrai que dans le cadre de la pandémie. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça, puisque vraiment, on est arrivé dans le travail de cette pièce de théâtre juste au début de la pandémie. Et il a fallu garder, on va dire, une certaine légèreté pendant l'animation du cours, alors qu'on voyait bien que la situation était quand même un peu. Enfin, était quand même assez grave. Il a fallu garder une certaine légèreté jusqu'au bout. Et effectivement. Toujours garder un lien assez fort entre les élèves, entre les participants de l'atelier. Donc effectivement, dans ce côté de médiation, moi par ailleurs, je sais que comme beaucoup d'autres comédiens ou comme beaucoup d'autres profs, on fait également des interventions en milieu scolaire, que ça soit en école primaire, en collège ou en lycée. Il y a toujours effectivement cette volonté de médiation, c'est-à-dire d'être disponible pour répondre aux participants, pour répondre aux élèves, et puis aussi être toujours force de proposition pour donner une dynamique si possible positive à un groupe. Donc après, là, moi, je suis dans le cadre d'une animation, dans le cadre d'un cours. Je ne sais pas ce qu'il en est pour un spectacle vivant qui est en cours de création, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je vois la différence entre le travail avec des comédiens, je vais dire professionnels, et des comédiens amateurs, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une forme de quand on est animateur ou prof, selon comment on se définit, on doit être un peu le leader d'un mouvement de groupe, ce qui n'est pas forcément dans le cas d'une compagnie pro où en général, je crois savoir qu'en général, on aime bien qu'il n'y ait pas trop de leader, si ce n'est, il y a bien entendu un metteur en scène, mais il me semble qu'il n'y a pas la même idée justement de leader d'un metteur en scène vis-à-vis de comédiens professionnels par rapport à un animateur ou un prof par rapport à des élèves ou à des participants d'un atelier.
Oui, moi si je peux prendre la parole, vous m'entendez, ça va? Oui. En réaction avec ce que tu viens de dire, Anthony, parce que moi je travaille aussi pas mal, comme je l'ai raconté hier, avec des publics autres, et c'est un petit peu différent. Hier, Isabelle Starquet parlait de projets socio-culturels. Moi, ça m'a fait réfléchir. J'avais même jamais pensé à ça, parce que moi, j'envisage pas les choses comme ça quand je travaille avec des groupes amateurs qui sont souvent des groupes constitués. Là, en ce moment, la régie de quartier du 19e ou des groupes qu'on trouve comme ça. J'envisage toujours ça comme un acte artistique en soi, et souvent aussi, contrairement à toi, Anthony, c'est pas un atelier sur l'année, c'est des projets courts sur quelques séances qui aboutissent à un spectacle, et en vue de créer un spectacle. Et pour moi, donc, les gens qui sont autour de moi sont des collaborateurs artistiques. Voilà. Et cette façon, enfin, moi, c'était, comme je racontais hier, c'était déjà une façon de travailler que j'avais, de travailler avec des groupes différents et de faire des projets artistiques. Et ce qui, avec le, comme je l'expliquais hier, donc avec le confinement, j'ai vu vraiment une envie encore décuplée de la part de tous ces gens de faire des choses et justement dans une dynamique plus positive, joyeuse, sans parler, là, nous, on et sans en parlant justement des projets graves d'aujourd'hui, comme la pandémie. Donc, on avait fait des projets sur vraiment axés sur la crise Covid, voilà, un projet des mesures sanitaires et tout comme ça. Et voilà, et c'est intéressant tous ces mots de, enfin, pour moi, j'envisage ça différemment du fait, parce que c'est pas de la médiation par rapport à un spectacle. Pour moi, c'est vraiment un acte artistique, mais c'est différent. Effectivement, il y a des choses différentes entre avoir un atelier avec des amateurs, avoir un projet de spectacle avec un théâtre, et avoir créer des choses autrement avec d'autres groupes. Je profite, j'ai la parole. L'expérience du collectif Protocole m'a absolument émerveillée. Je n'en reviens pas. C'est super. Voilà.
Justement, quand le collectif Protocole, dans ses errances, les artistes, les jongleurs, les jongleuses rencontrent dans les errances les habitants dans les villages, il y aurait une forme de médiation qui s'installe. Ça s'inscrit aussi dans toutes les pratiques participatives où les artistes rencontrent les publics ou les amateurs. En ce sens-là, il y aurait une médiation à ces moments-là qui devient artistique dans l'écriture aussi de la pièce. Mais si je pense effectivement au dispositif Périple, sans l'avoir vécu, mais dans le récit et dans ce que j'ai pu voir dans le site, il me semble que c'est...
Pour répondre là-dessus, j'ai l'impression que sur Périple, on a surtout déplacé la place et le rôle du spectateur à des endroits où il n'est pas habitué. On s'invite beaucoup chez lui. Je repense aussi à quand on a traversé la Normandie dans une période complètement confinée où les gens sortaient très peu de chez eux. L'un des jongleurs jonglait en courant, c'était ce qu'il faisait cette semaine-là. Il était sans invité puisque l'invité était au Canada et qu'il n'avait pas pu venir. Et où en fait, il y avait un jongleur tout seul en campagne qui jonglait et où une voiture qui passe, elle devient spectatrice. Enfin, les conducteurs deviennent spectateurs alors qu'ils sont tout seuls en pleine nature. Et je crois que c'est aussi ce rôle-là qui est assez frappant sur Périple.
Ouais, et je pense que c'était vraiment partie de notre envie de, qu'on a, de, je pense, depuis le début, d'aller à la rencontre des publics pas conviés. Du coup, n'importe quelle personne, tu peux croiser, ça peut devenir ton public, ton allié, ton, tu peux faire de la médiation avec eux. Et j'ai l'impression que c'est surtout dans la semaine parisienne avec Marie de Fréval et Sylvain. Du coup, c'était en traversée de Paris ou entre souterrainée et pas souterrainée. Et c'était dans une semaine où c'était vraiment complètement confiné, Paris. Mais du coup, tout il était fermé et il avait énormément de gens à l'extérieur. Et je pense qu'il en a eu plus de contacts dans ce cadre-là que c'est tout il était normal. Parce ouais. que du coup, la vie, il était complètement changée. Les gens, ils avaient le temps de s'arrêter, parler et discuter.
Et moi aussi, je voulais juste rebondir sur est-ce que le spectacle a été conçu pour... pour un public, ce que demandait Gabriel. Bah, dans le cas de Marta Cuscuna, non, je ne crois pas qu'elle n'avait pas prévu de faire l'audiodescription. Ce que je sais, bah, déjà, la médiation, pour moi, c'est un sujet qui, pendant la pandémie, relie les corps fragiles. En fait, nous aussi, on est devenus fragiles. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Et le fait d'avoir trouvé cette collaboration qui met en valeur la fragilité des gens, des artistes et aussi des spectateurs. Parce que quand j'ai dit à l'écoute, ce n'était pas facile pour moi de suivre cette autodescription. Et la réponse que j'ai eue, c'est parce qu'il faut éduquer mon imagination. Ça aussi, c'est une fragilité. À force non, d'un visuel qui s'impose, l'imagination, là, c'était l'idée de pousser vraiment à éduquer cette imagination. Mais ce que je sais, justement, c'est que Marta, après cette expérience, je crois qu'elle a commencé, ou bien elle envisage de collaborer avec des artistes du collectif. Du coup, ça a été aussi l'occasion d'une rencontre. Par exemple, entre autres, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, elle envisage, je crois, de travailler avec une artiste sourde pour traduire les spectacles en langage des signes. Là, je ne sais pas si c'est un projet qui aura lieu, mais je trouve intéressant cette idée d'une collaboration qui commence à mettre en valeur la fragilité. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'il y a eu, à mon avis, une médiation très intéressante.
Une médiation aux marges de ces situations. Julien, Nathalie, s'il n'y a pas d'autres questions.
Juste une remarque ou peut-être une question à Gabriel et Sylvia. Donc, c'est sur l'apparition de formes de la création et des formes de médiation aussi par Zoom était causée par la nécessité de l'adaptation aux conditions nouvelles. Et nous pouvons parler même de survie dans certains cas. Mais est-ce qu'ensuite nous pouvons envisager l'apparition de l'écriture et des sujets spécifiquement Zoom? Et la question que je trouve aussi intéressante, donc, quelle sera la place de ces formes dans les représentations en présentiel après le retour probable en régime présentiel, bien sûr? Ou tout cela restera toujours de côté des dispositifs techniques appliqués pour certaines causes?
Moi, je réponds rapidement. Moi, je crois que, justement, j'ai parlé d'un projet autonome. C'est un projet qui ne peut absolument pas remplacer les spectacles. Ça, c'est une évidence. Et moi, j'ai hâte de voir les spectacles, d'ailleurs, parce qu'apparemment, c'est magnifique du point de vue du visuel. Et il ne faut pas nier, c'est ça qui m'intéresse du travail de Marta Cuscuna. C'est son travail avec les objets, les marionnettes, etc. Et du coup, ça, c'est une autre chose. C'est un projet... Mais c'est un projet intéressant et ça dépendra. Ça, je crois que bien sûr la radio, les théâtres, la radio, c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau en ça. Mais travailler sur l'audiodescription, par exemple, ça pourrait être une idée à développer. de manière parallèle, mais ça remplace absolument pas le spectacle. C'est sûr.
J'en profite, je vais faire un petit teasing pour mon intervention tout à l'heure. Je vous montrerai des exemples d'écriture spécifique Zoom, de pièces de théâtre qui ont été écrites pour Zoom.
Donc voilà.
Voilà. Et alors, tant que j'ai la parole, j'entends bien, Gabriel, qu'on amène une forme de médiation en proposant différents types de contenus enrichis et que le public peut découvrir du coup les coulisses et les différentes préparations de spectacles. Quelle est la différence, vous faites du coup, entre la médiation culturelle numérique et la communication culturelle numérique? Parce que justement, le fait, sur les réseaux sociaux, avant la pandémie, de toute façon, tous les community managers ont partagé déjà des informations sur le spectacle, ont présenté les coulisses, etc. Et du coup, quelle est la frontière? Parce que je sais qu'elle s'est amenuisée au fur et à mesure de la pandémie, cette frontière entre la communication et la médiation.
Oui, c'est très pertinent comme question, merci. La différence, c'est vraiment l'apport qu'on va faire à la parole des publics. Parce que même si Facebook présente des chatrooms, en vérité, le débat ou la manière dont on va intervenir avec les spectateurs qui vont réagir, c'est assez limité, en fait. C'est pas fait vraiment pour ça. Et puis, on sort très rapidement, finalement, à des brides très décousu de commentaires et puis finalement ça s'entrecroise, mais on dirait jamais ça se répond tout à fait. Et puis le but de la médiation, c'est vraiment de pouvoir, grâce au médiateur, hein, c'est pas du tout de substituer le médiateur, c'est justement de lui donner encore plus une plus grande puissance, c'est de pouvoir centraliser toutes ces informations, tous ces commentaires, et puis de réellement faire un travail de table ronde, réellement faire comme on fait en ce moment, un retour sur impression. Après, l'idée, c'était vraiment de présenter, par exemple, oui, des coulisses, ça c'est fait, mais c'est vraiment de faire tout ce qui est autour de ça, en fait. Comment est-ce qu'on exploite les connaissances des gens, les savoirs qu'ils partagent? Comment est-ce qu'on amène aussi l'autre à essayer de voir un petit peu la vision qu'une autre personne pourrait avoir d'une même image, d'un même contenu? Donc, c'est vraiment... moi, je pense que c'est vraiment l'apport de l'écoute et de la mise en valeur de ce que les publics vont pouvoir dire par le médiateur qui fait la différence entre une communication toute simple et de la médiation.
Merci.